13h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure c'est la vôtre, on va parler pendant une heure du syndrome de l'imposteur. C'est un mal très répandu, 7 personnes sur 10 en seraient atteintes à un moment de leur vie. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'idée que nos plus grands succès, réussir un examen, décrocher un job, seraient le résultat non pas de nos compétences, de notre talent, mais simplement d'un coup de chance, d'une erreur de casting, d'un concours de circonstances. Et l'angoisse qui l'accompagne, c'est la crainte un jour d'être démasqué, d'où ce terme d'imposture. Ce syndrome, ou plus exactement ce sentiment, a été découvert par 2 chercheuses américaines à la fin des années 70. À l'époque, elles pensaient qu'il ne touchait que les femmes. Depuis, on a compris que les hommes aussi pouvaient en souffrir. Plus on est jeune et plus ce sentiment est fort. On le trouve beaucoup chez les jeunes étudiants qui décrochent les plus grandes écoles. Il apparaît aussi à d'autres périodes charnières de la vie. Le premier job, une promotion, même le jour où l'on devient parent. Avec cette interrogation, suis-je vraiment à la hauteur ? Pourquoi certains éprouvent ce sentiment d'imposture plus que d'autres ? Comment l'identifier ? Comment s'en défaire ? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous vos doutes. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, pour joindre Ève Roger, vous nous appelez au standard d'Europe 1. Le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous laissez un petit message. Benjamin est là pour vous accueillir. Vous êtes sélectionné, vous passez bien sûr à l'antenne. Vous pouvez aussi nous laisser un message simplement à l'écrit, comme sur les réseaux sociaux, Twitter, avec le hashtag Europe 1, ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h. Partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
T'en connais des mamans calmes ? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître. C'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes 2 grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus. Eh ben non, jamais. Mais j'ai compris pourquoi elles ne couraient pas devant l'école, la maman calme. Pourquoi elles ne courent pas ? Parce qu'elle n'est pas en retard.
Les mamans calmes, un extrait d'un sketch de Florence Foresti pour nous mettre en bouche.
Et oui, nous sommes maintenant en ligne avec Lisa. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 21 ans, je vous téléphone actuellement de Paris où je suis étudiante.
Alors justement, vous êtes étudiante. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez ressenti pour la première fois ce sentiment d'imposture ? Je crois que c'était il y a très longtemps.
Alors, la première fois où j'ai pu le ressentir, c'était lorsque j'étais enfant. J'ai toujours beaucoup aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et lorsque j'étais enfant, il arrivait parfois que nous ayons à l'école primaire des petites compétitions d'écriture, ouais. Où nous écrivions des petites histoires. Et j'étais parfois sélectionnée par ma maîtresse, qui aimait bien ce que j'écrivais, et qui me faisait lire ces histoires devant mes autres camarades.
Ouais.
Et ces moments où j'étais censée me sentir très fière de ce que j'avais ouais. fait, le fait d'être sélectionnée, en fait, je me sentais juste extrêmement mortifiée, et je me sentais surtout très honteuse, presque, finalement, de me présenter devant mes camarades, qui, je trouvais, avaient fait beaucoup mieux que moi,
ah ben voilà.
Pour la plupart.
Donc, on comprend bien, ça veut dire que vous disiez « je ne vois pas pourquoi c'est moi qu'on sélectionne ».
Exactement, je commençais déjà à questionner ma légitimité, en fait, sur quelque chose pourtant qui était ma passion et dont j'aurais dû me sentir fière.
Et ça a continué ensuite au lycée, pendant vos études. Vous pouvez nous raconter d'autres exemples ?
Au lycée, effectivement, ça a continué à chaque fois que j'étais, par exemple, dans des situations où je devais prendre une figure d'autorité, par exemple dans les groupes de travail ou alors, par exemple, tout ce qui est les examens de TPE ou ce genre de choses. Tout cela, en fait, à chaque fois que je devais prendre le contrôle d'une situation ou bien tout simplement essayer de... En fait, voilà, je me mettais pareil, questionner ma légitimité, à me dire qu'est-ce qui, moi, me rend, en fait, plus capable que n'importe qui d'autre. Et surtout, quand est-ce que les gens vont finir par se rendre compte que moi, je n'ai aucune idée, je n'ai pas plus d'idée de ce qu'il faut faire que tout le monde autour de moi, finalement.
Donc on est bien là dans le sentiment d'imposture, parce que justement, c'est cette crainte d'être démasqué.
Effectivement, c'est l'impression qu'en fait, on ne fait que mentir autour de soi et qu'un jour ou l'autre, les gens vont finir par le savoir et qu'à ce moment-là, tout va tomber autour de nous.
Alors aujourd'hui, vous nous en parlez, mais à l'époque, vous en parliez à quelqu'un quand vous aviez ce sentiment-là ?
Malheureusement, c'est quelque chose dont il est difficile de parler, je pense, car c'est comme la plupart des choses qui ont un rapport avec le manque de confiance en soi, finalement. C'est un petit peu embarrassant de devoir en parler autour de soi.
Ouais.
Et puis ça peut parfois paraître aussi comme de la fierté mal placée, en fait.
Ouais.
Et puis de toute manière, oui, parler du fait de se sentir, de vouloir se sentir fier de ce que l'on fait. Parfois, on a l'impression que finalement, c'est comme se vanter, mais de oui. manière un peu détournée.
C'est un peu comme vouloir frimer. Et au fond de vous, c'est quoi les sentiments que vous éprouvez? Est-ce que c'est, quand vous dites mortifier, c'est un terme très fort quand même pour une petite
oui,
fille qui doit lire sa rédaction, quoi.
Ben c'est vraiment une angoisse. C'est vraiment l'idée de se dire qu'on est en train d'arnaquer les gens qui nous font confiance, en fait, qu'il y a eu un coup de chance, qu'il y a eu une erreur, qu'on a réussi à tellement bien mentir sans s'en rendre compte, qu'en fait, on a réussi à arnaquer les gens autour de soi et qu'un jour, on va être répudié parce que le mensonge va être découvert et que tout va tomber autour de nous.
Donc, c'est vraiment une vraie angoisse.
C'est vraiment une angoisse, oui. C'est un petit peu comme si l'on mentait à quelqu'un et qu'au fur et à mesure, les gens commençaient à voir un petit peu à travers nous, c'est-à-dire à voir les trous dans notre histoire, à voir les choses qui ne s'emboîtent pas et que, en fait, petit à petit, tout s'effondrait.
Et aujourd'hui, vous êtes étudiante, vous êtes dans une école de journalisme et de communication.
C'est ça.
Et vous éprouvez toujours ce sentiment-là?
Oui, alors ça m'arrive moins souvent, il est vrai, mais ça m'est arrivé, par exemple, assez récemment. Grâce à mon école, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu participer à l'Académie Cinéma d'HEC, l'école d'HEC.
École de commerce, la plus grande école de commerce, oui.
Effectivement, qui a une Académie Cinéma où certains étudiants peuvent, au sein de plusieurs groupes, écrire puis réaliser un court-métrage, selon un thème imposé. Et au sein de mon groupe, c'est mon scénario qui a été choisi et j'ai été ensuite chargée de le mettre en scène. Donc j'avais autant de légitimité que n'importe quelle autre personne de mon groupe, parce qu'on était tous des débutants, aucun de nous n'avait une expérience préalable dans ce domaine. Mais j'étais persuadée que d'une façon ou d'une autre, j'avais réussi à flouer le jury, à leur faire croire que j'étais plus douée ou alors que j'avais une meilleure idée de ce que je faisais que les autres, alors qu'en réalité pas du tout. Et j'osais à peine, au début en tout cas, j'osais à peine prendre la parole sur la réalisation de ce court-métrage, sur un projet qui était pourtant le mien, où j'avais pourtant mis tout mon cœur.
On comprend que ça vous paralyse. Est-ce que, par exemple, vous vous empêchez de passer des concours, des très grandes écoles, justement, par cette peur de la paralysie?
Oui, par exemple, j'ai failli ne pas tenter certains concours d'école que j'ai passé, mais que je n'ai pas repassé par la suite, d'ailleurs. Ouais. Par exemple, le concours de l'école du Louvre, que j'avais tenté une première fois, mais j'ai failli ne pas le tenter, car j'étais persuadée que de toute manière, ça ne vaudrait pas le coup, étant donné que c'était un tel manque de confiance et un tel souci finalement d'authenticité et de penser en fait qu'on vaut moins que les autres et que finalement essayer ce serait presque de la vantardise et ce serait trop.
Alors on va terminer avec vous, Lisa. Je crois que vous passez un concours très important. Et là, je ne peux que vous dire bonne chance et puis on croit en vous, quoi.
Hein ? Merci beaucoup. Oui, je vais tenter le concours de la FEMIS l'an prochain, donc merci beaucoup.
Bon, en tout cas, merci, on pense à vous. Merci de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Laurent. Laurent, c'est un ingénieur qui nage dans le doute.
Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1.
Europe 1.
Et pour la joindre et raconter votre histoire, appelez-nous au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Si vous rejetez plus ou moins systématiquement le mérite, votre mérite lié à votre travail et que vous attribuez votre succès à la chance ou à des circonstances particulières, eh bien, dites-le nous. Vous nous laissez un message sur Twitter avec l'hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression. Tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai. Tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou.
Le dernier Angèle pour nous rappeler que parfois, Ève, tout devient flou. Et si vous éprouvez un sentiment d'imposture, comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Bon, on en parle jusqu'à 16h sur Europe 1 avec vous, Ève Roger, 3921, pour partager votre expérience.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Laurent. Bonjour Laurent, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors Laurent, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Oui, alors j'ai 25 ans, je vous appelle de Moselle, donc près de la frontière allemande, dans un petit coin qui s'appelle le Pitcherland.
Très bien, chez nous. Je ne le répéterai pas. Alors à quel moment de votre vie, Laurent, avez-vous ressenti pour la première fois le sentiment d'imposture ?
Alors c'est plutôt récent dans mon cas, autour de mes 20 ans, parce que bon, j'ai toujours été très intéressé par l'art, alors je pratique le dessin et l'écriture. Et donc j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, à me consacrer à ça autour de mes 20 ans.
Ouais.
Et là, je me suis rendu compte que c'était très difficile de se lancer parce qu'après, on est beaucoup influencé par ce qu'on voit autour de nous, par les œuvres qu'on consomme, que ce soit des films, d'autres livres, etc. Parce que je me suis vraiment mis à l'écriture autour de mes 20 ans et on s'est rendu compte que oui, effectivement, c'était très difficile de vraiment commencer la chose sans se dire, oui, mais ce que je fais, qu'est-ce que ça vaut par rapport à ce qu'un grand auteur fait?
Et du coup, c'est-à-dire, qui je suis pour me mettre à écrire, d'une certaine façon.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais.
Parce que vous avez fait des études d'ingénieur, je l'ai dit, donc ça n'avait rien à voir avec l'écriture et l'univers dans lequel vous espérez entrer.
Non, en fait, rien à voir. Et c'est donc, je me suis déjà souvent dit, effectivement, quand on fait des études d'ingénieur, c'est un peu difficile. Donc, effectivement, il y a des moments où on se pose des questions. Mais après, au final, lorsqu'on a fini, le diplôme, le diplôme donne une forme de légitimité puisque on a été validé entre guillemets par nos pairs.
Oui.
Mais c'est vrai que quand on se lance dans l'écriture, tant qu'on n'est pas édité, tant qu'on n'est pas dans le milieu, les pairs ne nous ont pas validé et c'est difficile de se sentir légitime à ce niveau-là, quoi.
Alors vous dites, ça fait 5 ans, vous avez 25 ans, donc ça fait 5 ans à peu près que vous avez commencé à écrire ce livre. Mais vous en êtes où aujourd'hui ?
En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème avec ça. C'est que pendant 3 ans, je me suis consacré uniquement à créer un univers.
Mm-hmm.
Je fais de la littérature de l'imaginaire, donc de la fantasy, de la SF.
Ouais. Et pendant SF, science-fiction ?
Science-fiction, exactement, oui.
Vous parlez à une vieille.
Et donc, pendant 3 ans, j'ai créé un univers. J'avais une encyclopédie sur cet univers, quoi. Mais je n'ai rien écrit.
Ah oui, c'est comme vous avez pris le temps. C'est comme une sorte de procrastination.
Il y a beaucoup de procrastination aussi. Hein, parce que souvent, on se dit, on va commencer. Et là, d'un coup, on se fait...
Et donc, maintenant, vous avez commencé à écrire ?
J'allais y venir, c'est qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 ans, que je n'avais rien écrit de concret, j'avais pas raconté d'histoire.
Ouais.
Et je me suis dit, mais il faut que je change de façon de procéder, parce que là, au final, je vais que étoffer un univers jusqu'à l'infini sans jamais rien faire.
Ouais.
Et du coup, j'ai commencé à me forcer.
Et alors?
J'ai commencé à me forcer à écrire, à avancer. Et du coup, c'est fastidieux. Je tire un peu sur la corde très souvent.
C'est dur, c'est dur d'avancer, ce que vous nous dites. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez commencé à faire lire ce que vous écrivez justement à des gens qui pourraient vous donner cette légitimité ?
C'est ça, quelle que soit la chose que je fais, effectivement, je vais faire lire à mon entourage. Mais la personne la plus légitime dans mon entourage, c'est ma compagne. Ma compagne, elle est auteure, elle écrit, elle est éditée.
Ouais.
Et voilà.
Elle vous dit que c'est bien ?
Elle aime beaucoup, hein, ça, il n'y a pas de souci.
Et vous dites, elle dit ça parce que c'est ma femme ?
Non, je pense pas. Je pense qu'elle est quand même, elle est capable d'être objective. Mais dans tous les cas, on n'est pas sur un. Voilà, tant que c'est. Le problème aussi dans ce milieu, c'est que le monde de l'édition, c'est un petit peu, c'est un peu le juge universel de la chose. Il va décider si oui ou non c'est bien. Souvent, on le perçoit comme ça, en tout cas lorsqu'on n'est pas édité, j'imagine.
Oui.
Il y a beaucoup d'autres auteurs qui sont par exemple auto-édités vont vous dire mais non, ça n'a rien à voir, etc.
Mais d'une certaine façon, vous êtes paralysé à l'idée de ne pas être édité, de ne pas avoir la validation du milieu de l'édition.
De ne pas avoir cette légitimité, qu'on ne m'accorde pas cette légitimité à terme, effectivement.
Et qu'est-ce que vous vous dites au fond de vous ? Qu'est-ce que vous éprouvez ? Je ne suis pas à la hauteur ? Je ne suis pas à ma place ? Qu'est-ce que vous éprouvez ?
C'est vrai que, en plus, je suis aussi quelqu'un qui est très, très perfectionniste et du coup, j'arrive à me dire... Je me retrouve toujours à me dire, oui, mais ça pourrait être mieux.
Ouais.
L'idéal que je vise, il est bien meilleur que ça. Le principal frein que ça donne, c'est qu'effectivement, souvent on se dit, je vais écrire, et là on se dit, ouais, mais non, je suis pas motivé, je me sens pas assez en forme, je n'arriverai pas à faire.
Une sorte de flemme aussi.
je n'arriverai pas, ben, ça va l'entretenir, c'est
oui,
vrai.
Oui.
Parce qu'on se dit, mais aujourd'hui, je ne serai pas suffisamment en forme, suffisamment affûté pour
oui.
sortir le texte que je voudrais.
Mais alors, c'est terrible, alors il faut faire quelque chose. Là, vous me faites de la peine de Laurent, parce qu'il faut, va falloir y aller, là, ou en tout cas,
ben,
faire
non,
quelque chose
traîne,
de différent.
Oui. On traîne, on se force un petit peu, et là, du coup, c'est vrai que ben, j'avais changé totalement de projet, puisqu'effectivement, pendant 3 ans, j'avais créé un univers et sans rien faire. Donc, j'ai changé de projet, et maintenant, ben, ça fait 1 an et demi maintenant que j'avance bien doucement.
Et pourquoi vous vous reconnaissez dans ce syndrome de l'imposteur ? Vous avez l'impression d'être un imposteur, justement ?
Ben, c'est même pas tant que j'ai l'impression d'être un imposteur maintenant, mais j'ai l'impression que en fait, on ne me donnera jamais autre chose que ce statut d'imposteur. On ne me donnera jamais que je n'aurai jamais un. Que comme je ne serai jamais validé, ben, on s'en retrouve à se dire oui, ben, ça se trouve, je suis un imposteur, je fais mes petites choses dans mon
dans
coin
votre
et
coin.
Derrière.
Bon,
voilà,
alors
je fais
donc
mes petites choses dans mon coin et
on a dit à Lisa qu'il fallait qu'elle réussisse la Fémis. Vous, on va vous suivre pour que vous publiez votre livre. En tout cas, merci
Exactement.
Beaucoup de vous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques
merci
instants, nous serons en studio et en direct avec Kevin Chassangre. Il est sociologue et auteur du livre « Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposture » aux éditions Dunod.
Hervé, dans les Hauts-de-Seine, nous a laissé un message au 3921 pour réagir à l'émission et il nous dit « Je souffre de ce symptôme depuis une trentaine d'années. À cause de cela, j'ai dû quitter mon poste de professeur des écoles. Je ne me sentais pas à ma place. J'avais l'impression que je n'avais pas les compétences nécessaires, alors que tout démontrait le contraire, c'était trop difficile à vivre. »
Europe 1.
Hervé est totalement dans le thème de l'émission. N'hésitez pas à nous appeler, vous aussi, au standard Europe 1, 3921. Le sémillant et sympathique Benjamin est là pour réceptionner vos messages. Vous pouvez aussi nous laisser des petits messages sur les réseaux sociaux, Twitter, par exemple, avec le hashtag Europe 1.
Pourquoi je serais différent des autres ? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux.
Évidemment, un texte du rappeur Lompal. Vous vous reconnaissez peut-être dans ses paroles si vous connaissez le titre. Vous avez peut-être, vous sentez peut-être aussi dans la peau d'un imposteur. Nous sommes avec Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1. On parle aujourd'hui du syndrome de l'imposteur, justement, de tous ces gens qui se dévalorisent, se dénigrent alors qu'ils sont brillants. Et on attend vos appels au 3921, 50 centimes d'euros la minute.
Et je me tourne vers vous maintenant, Kevin Chassangre. Vous êtes le grand spécialiste du sentiment d'imposture en France. Avec ce livre « Cessez de vous déprécier, se libérer du syndrome de l'imposture » aux éditions Dunod. Bonjour, merci d'être en direct avec nous cet après-midi. Pour commencer, Kevin Chassang, je voulais simplement vous demander quelle est la différence entre le doute naturel qui nous habite tous, plus ou moins, à certains moments, et ce syndrome de l'imposture.
Ben, le doute, on va dire qu'il est passager.
Mmh.
Et surtout, il peut être constructif, dans le sens où on va pouvoir s'améliorer et trouver des indices objectifs qui vont nous montrer que ben, finalement, on est compétent. Alors que le syndrome de l'imposteur va être plus long, il peut être plus fréquent. Il y a vraiment cette idée de pouvoir, un jour ou l'autre, être finalement démasqué et accusé d'imposteur.
Donc il y a cette idée du masque, hein, le sentiment de mentir, hein,
tout
c'est
à fait,
ça
ouais.
qui fait la différence avec le doute. Et je disais en préambule, 7 personnes sur 10 seraient concernées à un moment de leur vie, ce qui est énorme, ça veut dire qu'on est tous plus ou moins des cibles de ce syndrome, de ce sentiment.
On peut tous, oui, soit du fait d'une caractéristique personnelle, individuelle, soit du fait des contextes dans lesquels on va évoluer, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte.
Alors qui sont les personnes les plus touchées par ce syndrome de l'imposture ?
Ça va dépendre, du coup, on va dire que ça va être soit
des
au niveau
profils,
de l'enfance, comme je vous disais,
oui.
des personnes qui vont plutôt avoir tendance alors soit à être très valorisées durant l'enfance, ce qui fait qu'elles vont avoir l'impression d'être très idéalisées surtout, et elles vont se dire que, bah, comme tout le monde, en fait, elles ont des défauts et qu'en fait, elles sont des imposteurs. Ou après, on a l'autre versant, les enfants qui sont assez peu valorisés et qui ne vont pas gagner en sentiment de compétence ou d'intelligence. On a tout ce qui est aussi les enfants assez atypiques, comme les hauts potentiels intellectuels, par exemple, aussi. Qui vont
c'est
pouvoir,
le mot technique pour dire les surdoués.
Les surdoués, hein, c'est ça oui,
d'accord.
exactement.
Et pourquoi ceux-là, ils sont atteints, justement ?
Parce qu'ils ont une réelle conscience de leurs défauts, de leurs lacunes et leurs difficultés. Ils ont vraiment une focalisation là-dessus, ce qui
d'accord.
n'aide pas vraiment à gagner en
Alors
confiance.
Alors qu'ils sont
en soi.
Plus doués que les autres, selon la définition.
Du coup, oui. Enfin, en tout cas, ils ont une intelligence qualitative différente. Du
d'accord.
coup. Mais c'est surtout cette différence aussi qui fait qu'ils vont se qualifier d'imposteurs.
D'accord.
Et dans les deux témoignages qu'on vient d'entendre, alors on a eu deux témoignages qui étaient assez différents. Alors est-ce que dans les deux cas, il s'agit bien de ce syndrome d'imposture ?
Oui, et sur deux éléments différents. Autant le premier,
c'est Lisa, oui.
Lisa qui avait la peur du coup qu'on puisse se rendre compte qu'elle était un imposteur, en ayant l'impression que les gens la surestimaient. Alors que pour le deuxième, Laurent, c'était à l'inverse, dans le sens où c'est persuadé qu'un jour, persuadé que en fait tout le monde le considère comme nul ou incompétent.
Oui.
Et on a ces deux versants dans le syndrome de l'imposteur.
Alors pour les deux, alors j'ai l'impression que Lisa, elle s'en sort un tout petit peu mieux. Mais alors Laurent, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour sortir de ça ?
Peut-être diminuer certaines exigences, déjà, je pense.
C'est-à-dire, dans son cas, c'est-à-dire être moins perfectionniste.
Oui, du coup, oui. Et puis il le dit lui-même, du coup, très perfectionniste. Et puis essayer de revenir vraiment sur le plaisir à écrire, plutôt que sur la performance.
Oui, alors en même temps, c'est déjà difficile de le faire soi-même tout seul, hein, de diminuer ses propres exigences. Quand on a l'habitude, ça doit être difficile de changer tout seul.
Oh, ça peut, mais c'est possible. Et sinon, il y a toujours l'aide d'un professionnel, effectivement, qui peut être utile.
Ouais. Et on disait au début, on a cru que c'était que les femmes. Et d'abord, pourquoi on a cru que c'était les femmes? Et après, les hommes, et c'est à égalité, hommes-femmes, ce sentiment de l'imposture?
À égalité. Après, c'est vrai que les femmes en parlent plus.
Oui.
Du coup, comme toute manifestation psychologique. Après, dans le contexte où le syndrome de l'imposteur a été identifié, donc aux États-Unis à la fin des années 70, c'est vrai que c'était aussi la période où les femmes commençaient à accéder à des postes à responsabilité. Et donc, du fait des stéréotypes et du fait que la situation était nouvelle aussi, il y avait beaucoup plus de femmes qui pouvaient verbaliser ce type de ressenti. Mais aujourd'hui, on considère vraiment que hommes et femmes sont tous concernés.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est qu'on parle beaucoup de la sphère professionnelle, mais ça touche aussi la sphère privée et en amour, tout simplement. Alors, comment ça se manifeste quand on a un syndrome de l'imposteur en amour ?
En amour, ben, c'est les mêmes critères que dans le milieu professionnel. Les trois piliers du syndrome, c'est j'ai l'impression de tromper, ma situation est due à la chance ou au hasard et j'ai peur d'être démasqué.
D'accord.
Donc, en amour, ça va être, mais j'ai l'impression de ne pas être une bonne mère ou un bon père ou un bon conjoint, une bonne conjointe, parce que si je suis là, c'est une question de chance, il y a une erreur quelque part, une erreur de casting, comme vous disiez.
Ouais.
Et finalement, la personne avec qui je suis va se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, que je suis un imposteur.
Et ça arrive souvent ?
Ça peut, après, on en parle beaucoup plus dans le domaine professionnel, mais je ne sais pas quelles sont les statistiques dans le domaine perso, mais en tout cas, ça peut arriver, oui.
Mais ça arrive qu'il y ait quand même des mauvais conjoints.
Oui, alors ça, du coup, c'est autre chose.
C'est un autre mal. Et on parlait aussi donc, de l'amour, mais j'ai lu aussi qu'il y a par exemple des cuisinières qui disent qui font un plat et puis qui disent « Ah ben non, moi j'y suis pour rien, j'ai suivi une recette ». C'est aussi une forme d'amoindrie peut-être de ce sentiment.
Coup, c'est normaliser, minimiser justement ce qu'on va réussir à faire.
Ah oui, c'est ça. Et quelles sont les conséquences justement de ce syndrome de l'imposteur? On peut se dire que c'est pas grave puisque finalement on réussit.
Tout va dépendre de son intensité. Et puis de sa fréquence aussi, puisque c'est vrai qu'un syndrome de l'imposteur pas trop intense va amener même plutôt des effets positifs. C'est source de modestie, d'humilité, c'est aussi, ça aide à l'investissement, à la persévérance.
Oui.
Mais après, plus il va être intense, plus il va amener de symptômes anxieux ou dépressifs.
Mm-hmm.
Notamment, Lisa décrivait une forte angoisse aussi à l'exposition, donc c'est exactement ce qu'on peut retrouver.
Oui.
Et du fait du surinvestissement qu'on peut rencontrer aussi chez les personnes qui ont ce syndrome, ça peut conduire au burn-out, tout ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important.
Et à la paralysie, comme on l'a entendu un peu avec Laurent tout
aussi,
à l'heure, il est paralysé, c'est
ça ? Tout à fait,
C'est un risque de ce sentiment. Et puis il y a aussi ce fameux risque de la prophétie autoréalisatrice ou de l'autosabotage.
Exactement. Oui.
Alors c'est quoi, dites-nous ?
La prophétie autoréalisatrice ou l'autosabotage, c'est puisque je suis persuadé d'être un imposteur, de toute façon, mine de rien, je vais tout faire pour montrer aussi que j'en suis un. Et quand on procrastine, effectivement, c'est une stratégie d'autosabotage. Mais le travail frénétique aussi, s'engager à 100 ou 200% en est une.
Mmh. Alors ce qui est assez drôle, enfin, c'est qu'il existe le phénomène inverse.
Oui.
Ces personnes réellement incompétentes qui, au contraire, ont une très grande confiance en elles.
Effectivement, oui. L'effet de Dunning-Kruger.
Alors, comment vous dites, ça s'appelle comment ?
Dunning-Kruger.
Alors, et vous en croisez des gens comme ça ? Comment ils sont, ceux-là ?
Alors, je n'en croise pas beaucoup, en tout cas pas dans ma pratique. Mais eux, c'est effectivement l'opposé, dans le sens où ce sont des personnes à compétences moindres, ou en tout cas en début, on va dire, de leur carrière, qui vont avoir tendance à surestimer ou survaloriser leurs capacités.
Et ça, c'est quoi les conséquences ? Et parce qu'en fait, ils ne s'en rendent pas compte, donc ils souffrent de rien, ces gens-là.
Je ne sais pas vraiment s'ils se posent la question. Là-dessus, je ne saurais pas vous dire.
J'ai l'impression qu'il y a une génération qui est un peu comme ça aujourd'hui. Oui. Enfin, je ne vais pas faire la... Restez avec nous, Kevin Chassangre, dans quelques instants. Nous allons accueillir Flore. Flore nous racontera comment ce sentiment lui pourrit la vie.
Et Nicole, on remercie Nicole des Yvelines qui a souhaité nous faire part de son témoignage. Elle nous dit « Je me reconnais dans ce que disent les auditeurs. J'ai aucun diplôme. Je n'ai pas passé le bac par peur d'échouer. Pour moi, je suis bonne à rien. » Pourtant, j'ai un très bon métier, je suis experte en assurance. Si j'ai réussi, c'est grâce aux autres et à la vie. Je n'ai pas mérité le métier que je fais. Quand, par exemple, je reçois un message de remerciement, je le transfère à mon assistant en lui disant que le mérite lui revient.
Europe 1.
Si vous souhaitez réagir vous aussi et partager votre expérience, 39-21, vous nous laissez un petit message. Il y a aussi les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter et la page Facebook de l'émission.
La normalienne nous donne l'étymologie du mot travail.
Travail vient du mot latin tripalium. Un instrument de torture.
Un mot positif qui se termine en assis.
Démocratie.
Un mot négatif.
Phallocratie.
Un extrait du film Le Grand Oral de Léna de Claire Simon pour continuer à parler du syndrome de l'imposteur avec vous, Ève Roger, jusqu'à 16h sur Europe 1, partageant nos expériences de vie.
Et oui, parce qu'on l'a bien vu, ça concerne beaucoup les étudiants des grandes écoles. Dans quelques instants, donc, nous avons maintenant en ligne Flore. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Flore.
Bonjour Ève.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 40 ans et je vous appelle de la Lorraine, de Nancy.
Ah, et alors vous êtes chargée de communication dans une petite entreprise, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce sentiment d'imposture se manifeste chez vous et puis à quel moment ?
Il se manifeste, je dirais presque tous les jours en fait,
ouais.
Quand j'ai des décisions à prendre.
Des décisions à prendre, oui.
Voilà, quand on me pose des questions qui ont à voir avec mon métier, j'ai toujours un petit doute à me demander si ce que je dis n'est pas juste bête. voilà, tout simplement. Et concrètement, oui, c'est beaucoup de doutes. Je vérifie souvent sur Internet des choses très simples, comme par exemple l'orthographe d'un mot que je connais pourtant par cœur, parce que à un moment donné, je suis dans une émotion qui me met mal à l'aise et je me dis non, ça se trouve je suis nulle, peut-être que je me suis trompée depuis le début sur l'orthographe de ce mot, ouais. Et donc je vérifie, ouais. Voilà.
Encore une fois. Et qu'est-ce que vous dites dans votre tête ? C'est je l'entends déjà, ça veut dire je suis nulle, c'est ça que j'entends.
Oui, je me dis je suis nulle. Je me dis non, mais oui, je suis nulle, peut-être que je me trompe depuis le début, mais en fait, ce que je pense comme acquis, comme connaissance, mais ça se trouve, en fait, c'est ma mémoire n'est pas bonne, donc je préfère vérifier, en fait.
Donc vous mettez en doute sans arrêt vos compétences. Et est-ce que les autres le savent autour de vous, le sentent ?
Mais les personnes qui me connaissent bien, oui, ils le savent. Ah. Et c'est eux qui m'ont alerté sur le fait que j'avais peut-être ce syndrome de de l'imposteur.
Ouais.
Voilà. C'est pour ça que je me suis intéressée au sujet. Au niveau de mes collègues, je pense pas. J'ai pas l'impression. Mais en fait, ils peuvent me faire douter et je doute facilement devant eux.
Ouais.
Mais je sais pas.
Vous êtes plutôt du genre aussi à n'entendre les critiques et pas les compliments, à ne voir que la mauvaise note au milieu des bonnes notes, c'est ça ?
Ah oui, mais c'est exactement ça. En parallèle de mon travail, je fais un diplôme, un MBA par correspondance.
Ouais.
Et là, j'ai validé ma première année et quand j'ai vu mes notes... Donc, j'ai plus de 16 de moyenne. Donc, normalement, tout le monde devrait dire « Super,
ouais.
t'as travaillé très bien et t'as réussi brillamment.
Ouais. »
Et moi, j'ai vu une note
ouais.
dedans, dans ma fiche, et je me suis dit « Je suis nulle. »
Une mauvaise note, c'était une mauvaise note.
C'était un 13.
Ah oui, c'est une très mauvaise note, oui.
mais en fait, comme je me suis beaucoup investie,
hein.
Pour une fois... Parce que d'habitude, je travaille peut-être pas autant.
Mmh.
En tout cas, dans mes études, je m'étais jamais autant investie.
Ouais.
Et du coup, le résultat, je me dis, non, mais je suis nulle, en fait.
C'était le rapport, rapport note-investissement qui n'était pas bon. Et comment vous expliquez, Laure, que vous éprouviez en permanence ce sentiment-là de « je suis nulle » ?
Déjà, je doute beaucoup sur tout, en fait.
Mmh.
C'est quelque chose qui est assez, assez naturel chez moi. Votre interlocuteur tout à l'heure parlait du haut potentiel intellectuel, et
ouais.
c'est mon cas.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est très prégnant chez moi. Les choses que je fais, j'ai une certaine facilité à accomplir certaines choses par rapport peut-être à d'autres personnes.
Mais certaines tâches, oui.
Voilà, mais comme ça me paraît facile, je me dis, je l'ai mal faite, je suis passée à côté de quelque chose. Et si quelqu'un me dit c'est bien, je me dis ouais, mais j'ai de la chance. J'ai juste eu de la chance, c'est conjoncturel, enfin c'est pas dû à moi en fait.
Ouais.
Et pareil, quand voilà, j'ai eu plus de 16 de moyenne, je me dis mais en fait, je sais que je suis au potentiel depuis 4 ans seulement. Donc durant mes études, je ne le savais pas. Et maintenant je le sais. Donc je me dis 16, c'est pas assez pour quelqu'un qui a un haut potentiel.
Ah, oui, tout se renverse dans le mauvais sens, quoi. Dans votre réflexion.
Oui, exactement. Donc, je me dis, en fait, je devrais être meilleure. Donc, du coup, peut-être, est-ce que je ne suis pas si haut potentiel que ça, en fait?
Ah oui, ce n'est pas 16 que vous devriez avoir, c'est 19 ou 20. C'est-à-dire que vous, là aussi, oui. La barre est placée très, 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 très haut pour vous.
Mais oui, mais justement parce que... avant, je ne savais pas que j'étais au potentiel. Et je vous avouerai que j'ai fait mes études, j'ai pas énormément travaillé et j'avais facilement des notes. Là, je me suis dit, maintenant que je sais que j'ai un potentiel et que je reprends des études, si je m'investis, je vais avoir des super notes.
Ouais.
Et donc, je m'attendais à plus et je me dis, ouais, effectivement, ça, c'est pas beaucoup, en fait, finalement.
Ouais, je comprends. On comprend maintenant le raisonnement, mais en fait, c'est effectivement. Mais ça doit quand même beaucoup vous faire souffrir, tout ce que vous nous racontez là.
C'est un sentiment d'insécurité, effectivement, qui est quotidien. C'est surtout que malheureusement, je n'arrive pas à me réjouir des choses que j'arrive à accomplir.
Ouais. C'est-à-dire vous dire « c'est super » ou « je suis contente », ça n'arrive jamais dans votre tête?
Non. Non, pas vraiment en fait, non. Même les choses, même si quelqu'un me dit, par exemple, justement, pour ma première année qui a été validée, mon compagnon m'a dit « je suis fière de toi ».
Oui.
Et moi, je me suis dit « ouais, mais j'ai ce 13. J'ai ce 13-là.
» Là, ça gâche tout.
Et c'est terrible parce qu'en plus, maintenant, comme je le sais, je me dis « mais je m'en veux, en plus de pas me réjouir, je suis nulle. En plus, je suis nulle parce que j'arrive même pas à me réjouir. »
Je suis nulle parce que je sais que je suis nulle et que je profite pas de la vie d'une certaine façon. Est-ce que vous avez essayé des méthodes pour essayer de vous en sortir de ce syndrome d'imposture?
Alors, j'ai pas testé de méthode particulière. C'est vrai que j'ai pas travaillé dessus particulièrement. Mmh. Ce que j'essaye de faire, en fait, au niveau professionnel, quand par exemple j'ai une réunion ou une présentation de quelque chose, je doute, j'ai plein de questions et je me dis, en fait, ça se trouve, on va me poser ces questions-là parce que je suis pas bonne là-dessus ou je suis pas bonne là-dessus. Donc, en fait, je travaille à mort mes présentations et mes arguments et je revérifie mes connaissances pour être sûre de mes connaissances.
Et ça vous rassure?
Ça me rassure.
Ah, quand même?
Ça me rassure. Ah. Oh, oui, ça me rassure. Bon. Et puis sinon, je me coach personnellement.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a le côté, ce côté de sentiment d'imposture, c'est le premier sentiment réflexe qui vient. C'est très émotionnel, en fait.
Ouais.
Alors, il y a aussi un côté intellectuel, parce que je peux prouver par A plus B que je suis nulle. Ça, il n'y a pas de problème. mais j'ai la deuxième petite voix intérieure de moi qui me dit, oui, mais tu sais très bien que tu as ce petit souci de doute et de mésestime de toi. Essaye d'être... voilà. Donc, j'essaie de me coacher pour me rassurer.
Vous essayez de vous trouver en vous-même la ressource qui permet de mieux vivre, d'une certaine façon, et de mieux travailler, en tout cas. Merci vraiment infiniment pour votre témoignage qui est très éclairant. Et dans quelques instants, nous serons avec encore une femme, Sophie. Vous allez l'entendre, elle est youtubeuse et elle a partagé son sentiment d'imposture avec humour sur les réseaux sociaux.
Mais une autre Sophie, moi, qui nous a laissé un message.
Encore une femme.
Voilà, elle vit en Isère et elle nous dit « J'ai une enfance difficile, je me sens pas bien depuis que j'ai commencé à travailler, je me sens nulle. Pourtant, on me dit que c'est bien ce que je fais. Je me demande si je souffre de ce syndrome. »
Europe 1.
Beaucoup de réactions. Merci pour vos témoignages. D'ailleurs, vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux, à nous laisser des messages au 3921 avec Benjamin au standard d'Europe 1. Et puis le hashtag Europe 1 sur Twitter et bien sûr la page Facebook de l'émission.
T'es servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi?
Je me suis pas rendu compte que j'étais pas à ma place.
Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça.
Soyez fiers de ce que vous êtes. Je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne.
Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour, s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable.
La bande-annonce du film Le Brio d'Yvan Attal qui nous replonge dans l'univers des amphithéâtres. Et comme vous le précisiez tout à l'heure, Ève Roger, beaucoup d'étudiants sont concernés par le syndrome de l'imposteur. Alors, si vous avez décroché un super diplôme très coté ou obtenu un poste en or que vous doutez, est-ce que vous le méritez vraiment? Question de chance, ces questions vous hantent. Eh bien, restez avec nous sur Europe 1, partageons nos expériences de vie. On continue à parler du syndrome de l'imposteur.
Et nous accueillons maintenant Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous, Sophie, et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 30 ans et j'habite à Lille.
Alors, vous, Sophie, vous êtes youtubeuse, je l'ai dit, mais aussi actrice, autrice. Alors, moi, je dis autrice. Mm-hmm. Et on va commencer cette interview par un extrait de votre vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Écoutez bien.
Putain, juste un exemple tout bête. Moi, ça va faire 10 ans que je dis à tout le monde que j'ai eu mon permis parce que mon examinatrice était de bonne humeur parce qu'elle venait d'apprendre qu'elle était mamie. C'est complètement con. Genre la meuf elle aurait mis sur les routes un danger public juste parce qu'elle était contente, hein. Non mais imagine, quelqu'un qui a un bon transit et qui dit « Oh oui en ce moment bah, je suis drôlement soulagée, ah bah oh, je vais confier les codes de la bombe nucléaire au premier venu, hein, parce que bon, oh, la vie est super !» N'importe quoi. On peut tuer des gens. Peut-être qu'elle était de bonne humeur, ok, mais elle a aussi vu que je conduisais pas complètement comme un trou duc.
Alors Sophie, vous avez fait un peu d'humour avec votre syndrome, c'était une sorte de thérapie?
Thérapie, oui et non. Enfin, disons que moi j'aime bien sur ma chaîne parler de sujets qui m'ont complexé ou qui me complexent pour, en fait, que ça aide les personnes concernées.
Donc vous êtes tout à fait concernée par le sujet, mais j'ai un sentiment peut-être que à force de l'avoir étudié, peut-être d'avoir pris de la distance avec, vous avez réussi peut-être à vous en débarrasser.
Exactement.
Alors comment vous avez fait ? Donnez-nous quelques astuces, quelques trucs.
En fait, déjà de base, je pense qu'à partir du moment où on sait que le syndrome de l'imposteur existe et où on se renseigne dessus, on peut caler mieux. En fait, maintenant, moi, j'ai mis en place des mécanismes de défense vis-à-vis de ça. Par exemple, si on me propose un job, enfin un petit boulot, avant, j'aurais eu tendance à être paralysée par la trouille, en fait. Et c'est même arrivé dans le passé de rester dans un métier qui ne me plaisait plus du tout parce que quand on venait me chercher pour me débaucher, je me disais non mais je suis incapable de faire autre chose. J'ai déjà eu de la chance d'être embauchée une fois.
Ouais, ça n'arrivera pas deux.
Exactement. Et voilà, en fait c'est plus prendre du recul et se poser des questions, se dire en gros est-ce que c'est une crainte objective de ne pas réussir. Par exemple, si on me demande de faire une opération à cœur ouvert, effectivement, sachant que je n'ai pas fait médecine, je serais incapable de le faire. Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment juste le syndrome de l'imposteur qui me met cette pensée limitante dans la tête, quoi.
Ouais. Mais c'est pas mal ce que vous disiez sur le permis de conduire. C'est-à-dire, est-ce que cette femme, même si elle a eu un enfant ou un petit enfant, est-ce qu'elle donnerait le permis de conduire à quelqu'un de dangereux ? C'est-à-dire qu'il faut renverser un peu cette logique-là. Mais est-ce que vous avez aussi beaucoup... Comme vous avez beaucoup étudié le sujet, vous avez repéré des points communs entre les syndromeurs, comme vous les appelez. Alors vous dites, ils ont tous un peu un pet au casque. Hein.
Un gentil pet au casque, en fait. Mais je pense qu'on a tous dans le monde un pet au casque, chacun de notre façon. Hein. Ouais. Oui, je pense que déjà, j'ai l'impression que c'est, je crois, Laurent qui disait tout à l'heure qu'il avait tendance à procrastiner à cause de son syndrome de l'imposteur. Mmh. Et il y a beaucoup ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup remarqué chez moi. Je l'ai vu dans les abonnés, dans les commentaires sous ma vidéo. J'ai l'impression que ça joue énormément là-dessus. Mmh. Parce que du coup, comme on se sent incapable de faire quoi que ce soit, quand on a très envie de faire quelque chose, on remet au lendemain éternellement.
Ouais, c'est ça. Et puis la deuxième chose aussi, ce qu'on disait un peu, c'est qu'on a le sentiment de si on fait les choses bien et si on s'en vante, d'être un peu vantard, d'être un peu, de frimer un peu aussi. Hein.
Exactement. Oui, ça c'est. Mais en fait, il y a vraiment un monde entre avoir le syndrome de l'imposteur et devenir complètement vantard. Ouais. Et en même temps, je pense que parfois, on a le droit aussi de dire, en fait, là, j'ai fait quelque chose dont je suis content, dont je suis fière. Mmh. C'est important pour l'épanouissement personnel. Et en vrai, quand des gens autour de moi sont fiers de leur travail ou quelque chose comme ça, je suis très contente pour eux.
Oui, c'est ça.
Et quand je ne l'étais pas, c'est parce que j'étais pas bien dans ma vie et que j'étais complexée. Et que du coup, en fait, c'est parce que ça me mettait en face de moi du fait que je ne faisais pas grand-chose, quoi.
Et est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être débarrassée de ce sentiment, de ce syndrome ?
Je pense qu'on n'est jamais débarrassé. Oui. Mais qu'on peut toujours travailler là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, je comprends qu'il faut toujours en avoir conscience et toujours l'avoir à l'esprit. Je vais me tourner vers notre expert Kevin Chassangre. Je crois que pour vous donner quelques petits exercices pour... c'est pas magique, mais quel type d'exercice on peut faire pour essayer de se débarrasser de ce syndrome ?
De ce syndrome ?
Oui.
Je trouve que du coup Sophie a d'excellentes idées. La première chose, c'est déjà pouvoir le considérer comme un ressenti et pas comme un fait, dans la mesure où ça va vraiment pouvoir nous permettre à le mettre à distance. Je sais que j'ai ce syndrome de l'imposteur, il a tendance à amener un filtre sur tout ce que je fais. Bon, j'essaye de prendre le contre-pied et d'avoir une pensée un petit peu plus rationnelle.
Oui.
Une autre façon de le faire, c'est aussi d'en parler autour de soi. C'est pour ça que c'est super intéressant justement de lever le masque et d'exprimer ses doutes, parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a plein de gens concernés. Et puis, on peut recevoir aussi des retours par rapport à nos compétences, notre intelligence ou nos connaissances.
Alors, vous dites ça, en parler autour de soi, mais c'est assez agaçant pour les autres. Quelqu'un qui a décroché un diplôme ou un job et qui dit « Ah bah, j'ai eu de la chance, j'y suis pour rien », alors que vous-même, vous avez raté cet examen ou ce job. C'est un peu agaçant pour les autres quand même.
Peut-être, mais en même temps, l'autre n'a pas le syndrome de l'imposteur et c'est important de pouvoir le verbaliser quand même.
Et à qui il faut en parler en vrai? Est-ce que c'est à ses amis? Est-ce que c'est...
Des personnes proches ou en qui on a confiance?
Pas forcément les gens du bureau, justement.
Ça tout dépend de l'intimité qu'on a avec la personne, en fait, je dirais. Ouais. C'est vraiment, voilà, je suis dans un environnement de confiance, je peux parler de mes difficultés, de mon ressenti, pour voir un petit peu, enfin, au moins le déposer. Et puis, ça se trouve, la personne en face, elle est même ressentie aussi.
Et ça, ça,
juste
et ça fait du bien.
Et ça fait du bien, déjà.
J'ai lu aussi que ce syndrome, il disparaissait petit à petit avec l'âge, que plus on avançait dans l'âge et plus on savait à peu près ce qu'on valait. Oui. Et c'est vrai, ça?
Je dirais qu'il y a différentes choses. Effectivement, avec l'âge, le syndrome de l'imposteur a tendance à diminuer dans la mesure où, généralement, on a soit un sentiment de compétence ou d'intelligence. Après, il y a toutes les périodes de transition de vie, changement de poste ou autre à l'âge adulte qui peuvent arriver, qui vont être à risque de développer des sentiments d'imposture.
D'accord. Donc, à ce moment-là, il faut toujours être vigilant.
Toujours être vigilant.
Alors, Sophie, on vous souhaite beaucoup de vigilance et puis beaucoup de réussite aussi. Je crois que vous êtes en train d'écrire une série en ce moment et que c'est un peu votre rêve qui se réalise.
Exactement.
Mais, alors, sur YouTube, on peut vous retrouver. C'est Sophie. Comment ça s'appelle, votre chaîne YouTube?
Sophie Riche, comme
Sophie Riche,
je ne peux pas aller chercher très loin.
Alors, vous êtes riche de votre sentiment d'imposture dont vous êtes débarrassée. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Et pour conclure cette émission, nous allons accueillir Aude. Elle est actrice et réalisatrice. Et
Jackie nous a laissé un petit message. Alors, il nous dit « Je ne sais pas si j'ai le syndrome de l'imposteur, mais grosso modo, j'ai l'impression de mentir à mon entreprise comme si je sous-traitais mon travail à des Chinois et que je ne suis pas adaptée à mon poste. »
Europe 1.
D'autres messages, on les lit avec plaisir, volontiers. N'hésitez pas, Twitter avec le hashtag Europe 1, la page Facebook de l'émission et puis bien sûr le 3921, le standard d'Europe 1. Et vous écoutez Eve Roger jusqu'à 16h, donc pour quelques minutes encore, comment lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui sur Europe 1.
Et oui, pour conclure justement cette émission, nous sommes avec Aude. Bonjour Aude, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Alors quel âge avez-vous Aude et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 35 ans et je vous appelle de Paris.
Alors, ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est de raconter que vous avez hésité à témoigner aujourd'hui, justement, à cause de ce sentiment d'imposture.
Mais oui, mais parce que j'ai été contactée par rapport au fait que j'en parle quand même assez régulièrement sur les réseaux sociaux ou autres. Et au départ, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Qu'est-ce que j'aurais vraiment à dire? Donc, mais c'est un peu un mécanisme, malheureusement, automatique.
Et bien, c'est ça. Et maintenant que vous êtes là avec nous, vous vous sentez quand même à l'aise, dites-nous.
Ah oui, non mais parfaitement, mais parce que je pense par ailleurs que je suis en train de passer complètement de l'autre côté de la barrière et en train de vaincre ce syndrome de l'imposteur.
Alors justement, vous êtes en train d'écrire un livre sur les femmes qui vous ont inspiré, que vous admirez après avoir fait des vidéos sur elles. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous de se libérer de ce sentiment ?
Ben, en tout cas, ça y a contribué. Disons que quand il a fallu que je me lance sur des projets, au départ, je me disais, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai moins de choses à dire, ça va être moins intéressant, ça va être moins bien fait. Et puis, du coup, de ce constat-là, je me suis rendu compte que j'admirais beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de femmes en l'occurrence. Je me suis dit, puisque quitte à les admirer, en fait, autant transformer syndrome de l'imposteur en programme et faire de cette chose qui, à la base, pourrait paraître comme négative, une force.
Mmh. Et comment ça vous a aidé alors?
Le fait est que votre expert en plateau disait que c'était aussi bien 50% homme masculin que féminin.
Ouais. C'est vrai que ça soulage
alors,
ça.
mais je ne suis pas persuadée malheureusement, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que si on disait à toutes les petites filles dans l'éducation et dans l'inconscient collectif qu'elles peuvent tout faire, si on leur disait « tu peux être astronome, neurochirurgienne ou mathématicienne », peut-être qu'il y aurait un peu moins de syndrome de l'imposteur chez les jeunes femmes.
Oui.
Et c'est vrai que à l'origine, dans l'éducation, un garçon lui dit « vas-y, saute en parachute, sois pompier ».
Oui, mais comme ils disent, ils parlent moins, peut-être qu'ils le font, mais peut-être qu'ils ont le sentiment, justement, de ne pas être à leur place. Enfin, ça, c'est un autre débat. Ce qui est intéressant dans votre cas, Aude, c'est que vous êtes à la fois actrice et réalisatrice, et vous dites « quand je suis actrice, je n'ai pas du tout ce sentiment-là ». Pourtant, pourquoi ?
Eh bien, parce que je pense que j'ai eu une formation, c'est-à-dire je me suis formée. Là aussi, et c'est un peu le truc qu'on retrouve chez tous les interlocuteurs, il y a un côté un peu scolaire, ouais. De vouloir être de reconnaissance, de vouloir être validé et de pouvoir se légitimer par les études, par la formation, par ses pairs. Donc évidemment, moi j'ai une lourde formation en tant qu'actrice, ouais. Mais par exemple, en tant qu'autrice, puisque j'écris un livre, en tant que réalisatrice, c'est des choses qui m'ont été, sont des opportunités qui m'ont été apportées par l'extérieur et qui sont pas des choses que je serais allée chercher forcément de moi-même.
Oui, pourtant, on a l'impression de quand on est actrice, on doute tout le temps de soi-même. Est-ce qu'on a été bonne? Enfin, je sais pas, moi je ne suis pas, mais j'ai une image d'un grand doute, de grande fragilité.
Non, parce qu'après, c'est les acquis de l'expérience. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, évidemment, il y a des rôles qui sont plus difficiles que d'autres. Ouais. Mais le fait est que quand on est lancé, c'est toujours le principe, hein, quand on a un casting, 90, la norme, c'est de ne pas l'avoir. Ouais. L'exception, c'est de l'avoir. Quand on l'obtient, c'est qu'on a raison d'être là et qu'on est légitime pour y être.
Donc dans ces cas-là, vous êtes bien, vous sentez légitime.
Ben, on a été validé, forcément. Ouais.
Donc, alors, on peut dire que vous êtes débarrassée du syndrome sur votre métier d'actrice. Sur votre métier d'autrice, ce n'est pas encore le cas, parce que je crois qu'il y a encore une anecdote avec votre éditeur ou votre éditrice récemment, là.
Oui, mais récemment, elle m'a proposé de me mettre sur la couverture, et mon premier réflexe, ça a été de dire, bah non, pourquoi? Quelle idée. Et elle m'a dit, bah, peut-être parce que tu l'as écrit, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais en fait, alors moi, j'ai mis en place un petit mécanisme, ouais. Étant entourée d'hommes confiants et qui n'ont pas trop problème, non, mais ah globalement, oui. Dans mon métier, qui n'ont pas trop de problèmes et qui ne posent pas trop de questions et qui se mettent aussi souvent en avant, je me dis, est-ce qu'un homme refuserait ça? Est-ce qu'un homme, à ma place, ne voudrait pas le faire ou ne voudrait pas être en couverture? Et en fait, quand je fais vite le calcul, en règle générale, ils sont tous en couverture et ils ne sont pas trop posés la question. Ah oui. Donc, j'essaye aussi de lutter par ça.
D'accord, très bien. Alors, merci. On va rester sur votre astuce, votre truc. Moi, je peux vous donner le mien. Moi, je dis, quand on me propose quelque chose, je dis toujours oui et après, je réfléchis. Comme ça,
c'est bien aussi.
Et vous, Kevin Chassang, s'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que vous nous diriez pour essayer de lutter contre ce syndrome?
De développer la bienveillance envers soi. Dès que votre syndrome de l'imposteur vous parle, demandez-vous juste si votre meilleur ami vous dirait ça.
Alors, et si on prend un exemple, si le syndrome de l'imposteur, est-ce que votre meilleur ami vous dirait « Ah non, t'es nul », c'est ça?
Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûr. Et du coup, l'idée, c'est de développer aussi cette empathie et cette bienveillance par rapport à soi pour surmonter son syndrome qui est assez sévère quand même.
Et alors, donnez-nous quelques phrases qu'on peut se dire comme ça.
Ben, si j'échoue, je suis un imposteur. Je pense que le meilleur ami peut juste te dire « Mais tout le monde a le droit d'échouer, c'est pas dramatique. »
Ou « Je mérite de réussir. »
Ou « Je mérite aussi de réussir. »
Mais est-ce que, pour ceux qui n'en ont pas conscience, c'est très difficile en fait. Et comment on arrive à prendre conscience qu'on est atteint de ce mal?
Très bonne question. On lit des articles sur le sujet, on écoute les gens en parler et justement, on va chercher les gens qui en parlent.
C'est ça, mais alors donc il faut que ça résonne en nous, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas ce terme-là, syndrome de l'imposture, même si on en parle beaucoup.
C'est vrai, mais généralement les gens qui se sentent concernés du coup arrivent rapidement à mettre des mots sur leurs ressentis. D'ailleurs, en commençant souvent par dire « je ne sais pas si j'ai ce syndrome, mais je m'y retrouve ».
Alors n'oubliez pas, je ne sais pas si j'ai ce syndrome. En tout cas, merci beaucoup Aude de nous avoir fait partager votre expérience, mais c'est aussi à Lisa, Laurent, Flore et Sophie de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie, et à vous Kevin Chassang pour votre éclairage. Grâce à eux, grâce à vous, merci. Nous avons compris que le complexe de l'imposteur était partagé par tous, ou presque, ce qui est déjà un premier soulagement. Ça veut dire qu'on peut en parler aux autres, qu'on doit en parler aux autres, car il est important de partager ses doutes pour les relativiser et les mettre à distance, les garder en soi comme un secret, comme une honte peut-être néfaste. On peut provoquer soi-même son propre échec, inconsciemment, pour prouver au monde entier qu'effectivement on est un imposteur. Alors en prendre conscience, en parler, mais aussi faire quelques exercices, tenir un carnet de bord de ses réussites et y revenir à chaque fois que le doute nous prend, faire la liste de ses qualités, repérer à chaque succès laquelle on a mis en œuvre, le sens de l'organisation, l'esprit de synthèse ou l'empathie, et puis surtout, ne jamais oublier, et ça on y pense rarement, qu'on est le seul à côtoyer d'aussi près nos faiblesses, car les autres ne voient de nous que ce que l'on veut bien montrer, alors cessons de nous faire souffrir inutilement, regardons-nous en face et disons-nous, tu es une personne super, avec des défauts bien sûr, mais aussi de très grande qualité.
Et vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux, notamment sur le groupe de l'émission Partageons nos expériences de vie sur la page Facebook
Europe 1. Demain, nous parlerons d'un phénomène méconnu, mais que certains jeunes pratiquent couramment, les plans
dodo. Le principe, aller dormir dans le lit d'un ami ou d'une amie du sexe opposé, non pas pour avoir des relations sexuelles, simplement parce qu'on a besoin de présence et de réconfort. Alors si vous avez des dodo friends et non pas des sex friends et que vous faites des plans dodo, si vous dormez avec un ou une amie les soirs de vague à l'âme, si ça vous dit de faire des plans dodo pour vous sentir moins seul, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque et Léonard Attal, mes brillants assistants pour la préparation de cette émission. Merci au rigoureux Boris Paczynski pour la réalisation. Merci à vous, la perfectionniste Marlène.
Oh, je suis démasquée. Merci Eve, hâte de vous retrouver demain.
Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny. Bonjour Karima.
Bonjour Eve, bonjour à tous.
Alors votre invité a un prénom au goût sucré aujourd'hui.
Absolument, on va voyager un petit peu de bossa nova, du soleil va arriver en direct sur Europe 1 avec mon invité qui est bien plus que simplement la fille de Julien Clerc, c'est Vanille.
Si tu suivais le soleil juste pour changer de peau, il caresserait ton sommeil, te ferait le pays chaud. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux comme tes yeux dans
Marlène
le ciel.
La connaît par cœur.
Ah, voilà, on a déjà une fan dans le studio, Marlène.
En tout cas, Karima, je vous souhaite une très bonne émission.
Merci
et moi, je vous dis à demain.
De peau.